Radio Okapi.
Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli leopard.
Bienvenue dans 100% jeunes de ce jour qui s'intéresse au 57e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Les jeunes ont-ils un rêve pour le pays? De quel Congo rêvent-ils? Que font les jeunes pour participer au développement de la RDC? Quelques jeunes s'expriment à ce sujet. Vous écouterez également quelques parents et nous recevons comme invité Gomba Rigaud, responsable de communication et speaker des Motivations Day, une activité initiée en collaboration avec le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS en sigle. Nous sommes en compagnie de Gomba Rigaud, notre invité dans ce numéro de 100% jeunes lié aux 57 ans d'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Bonjour.
Bonjour Baya.
Merci à vous d'accepter de répondre à notre invitation.
Je vous remercie.
Avant d'entrer ou d'aborder le vif du sujet, pouvez-vous nous dire ce que cela représente pour vous, 57 ans d'indépendance en tant que jeune Congolais?
57 ans, c'est beaucoup. Mais pour moi aujourd'hui, avec le contexte de la RDC, pour moi aujourd'hui c'est une lourde responsabilité. Mmh. C'est une lourde responsabilité pour les Congolais de voir que 57 ans après... Qu'est-ce qu'on a fait de notre nation? Qu'est-ce qu'on a fait de nos peuples? Et qu'est-ce qu'on a fait aussi de l'avenir de cette nation pour les enfants, donc pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on en a fait? Et ce sont des questions qui reviennent régulièrement. Alors, chaque fois que nous fêtons comme ça, 57 ans pour moi veut dire encore la responsabilité de la population congolaise ou de la nation congolaise.
Donc, face à elle-même. En gros, c'est une journée qui représente pour vous une période de remise en question,
exactement,
d'analyse, de réintrospection en, exactement, tant que Congolais, en, exactement, tant que fils du pays, afin de pouvoir se projeter dans l'avenir et voir comment la gestion du pays, hein, ou le développement du pays pourrait être amélioré. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est justement le rêve quand les jeunes pour la RDC. Mais avant cela, une petite présentation de ce que vous faites. Vous avez une dizaine d'expériences dans les secteurs de la communication, des organisations, des événements institutionnels et dans l'encadrement des jeunes, particulièrement dans la région d'Afrique de l'Ouest. Oui. On parlera du Burkina Faso notamment.
Exactement, où j'ai vécu pendant pratiquement 10 années.
Avec deux licences, l'une en sciences de l'information et de la communication et l'autre en relations publiques internationales et un master 2 en communication institutionnelle et politique. Vous êtes fondateur de la plateforme RDC Lelo Nalobi.
Exactement.
Et membre d'une autre plateforme qui s'appelle Motivation Day. Nous allons parler de tout ça justement. Et en dehors de cela, vous êtes conseiller du président du groupe Rainforest Coalition, présidée par Tosi Mpanoupanouk, au sein donc de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, pourquoi avoir monté la plateforme Lelo Nalobi?
À un moment donné, avec la petite expérience que nous avons connue en Afrique de l'Ouest, en voyant comment est-ce que les jeunes de l'Afrique de l'Ouest travaillaient, comment est-ce qu'ils aboutissaient dans tout ce qu'ils entreprenaient, ce n'est pas une comparaison négative, hein, pas du tout, mais... nous avons accumulé une petite expérience, on s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on peut en faire pour notre pays? Eh bien, c'est là où va naître la plateforme RDC Lelo Nalobi, donc nous travaillons pour aujourd'hui, pour demain, mm-hmm, parce que nous avons compris que le plus grand chantier de la RDC, c'est l'homme. Il faut donc construire l'homme. Et pour construire l'homme, il faut construire la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse de demain. C'est là où est venue l'idée, le RDC Lelo Nalobi, qui est une plateforme qui encadre des jeunes gens, qui réfléchissent avec eux et qui mettent des actions sur terrain pour la jeunesse, avec la jeunesse.
Et quelles sont les actions que vous avez déjà eues à mettre en place sur terrain pour pouvoir encadrer cette jeunesse, pour pouvoir pousser cette jeunesse à entrevoir l'avenir?
Nous avons eu une série de conférences que nous avons organisées il y a de cela 7-8 mois en arrière. Mmh. Et donc l'année passée, il y en avait plus. Et puis l'année 2014, il y en avait encore un peu plus. Nous avons organisé des conférences avec eux sur des thématiques qui les amenaient à comprendre leur sens de responsabilité et à mieux saisir aussi les enjeux de la nation. Mmh. Donc, par exemple, lorsque vous travaillez et vous posez une question à savoir quelles sont les valeurs de notre nation, sur quoi nous nous basons pour bâtir la nation, voyez, ça remet la jeunesse en cause. Ils se posent des bonnes questions et si possible, avec des conférenciers, vous leur donnez des bonnes réponses. Ça vous permet au fur et à mesure de vous préparer pour l'avenir meilleur avec ces jeunes gens.
Est-ce que vous pensez que ça suffit seulement d'organiser des conférences pour pouvoir préparer un avenir meilleur?
Les conférences, c'est une partie de ce travail qui est très lourd. Une partie, bâtir d'abord, conscientiser la jeunesse. Leur donner les opportunités ici de rêver, de croire qu'ils peuvent faire quelque chose pour la RDC. Et puis après quoi, commencer à mettre des mécanismes sur pied qui leur permettent au fur et à mesure, eux-mêmes, à penser, à réfléchir et à asseoir des projets qu'on peut accompagner avec eux. Et nous en avons eu de jeunes gens avec qui nous avons travaillé, qui aujourd'hui, ils sont à mesure de poser des actions concrètes et des actions positives pour la nation.
Puisque nous évoquions à l'instant avec Gomba Rigaud la question du leadership, je vous emmène à présent dans un camp, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un camp de leadership qui s'est tenu au centre Theresianum de Kinshasa. Sur place, 72 filles issues de diverses écoles de la capitale ont pris part pendant près d'une semaine à une série de formations sur le leadership. Merveille, une des organisatrices, nous explique le sens de cette activité.
En fait, c'est que ça veut dire qu'on aide ces jeunes filles à pouvoir s'outiller de connaissances qui sont liées au leadership, c'est-à-dire qui leur permettront de pouvoir jouir complètement d'un épanouissement intégral de leur personne, mais également que ces filles puissent avoir tout ce qu'il faut pour impacter leur communauté, dans leur maison, dans leurs écoles, et pour qu'elles sachent comment, par exemple, détecter des problèmes, réfléchir sur ces problèmes et trouver également des solutions par rapport à tout le problème qu'elles vont rencontrer. On veut vraiment que ces jeunes filles puissent avoir des connaissances qu'il faut pour impacter positivement la communauté.
Sur quelle base ces filles de l'école primaire et secondaire ont-elles été sélectionnées et dans quel but, Françoise, co-organisatrice?
Vous savez, ces jeunes filles, avant de venir ici, elles ont été sélectionnées d'une manière spécifique. Parce que ce sont des filles auprès de qui on a remarqué une certaine spécificité dans le comportement. Elles dégageaient déjà certains éléments, certaines caractéristiques de leadership. Le but qu'on poursuit, ce n'est que le renforcement de leurs compétences de leadership. Elles ont déjà des compétences de leadership en elles et nous ne faisons que les renforcer. Et avec ces renforcements, ces filles, avec toutes les idées qu'elles donnent au cours de cette formation, elles pourront prendre des décisions qui pourront changer leur communauté, qui pourra changer le pays et ainsi de suite.
Retour sur le plateau pour la suite de notre entretien avec Gomba Rigaud, responsable de communication et speaker de Motivations Day, qui partage avec nous la genèse et le but des Motivations Day et qu'il co-organise avec ses partenaires. Gomba Rigaud ne manque pas de nous donner les qualités d'un bon leader.
Motivations Day, c'est pour nous une très belle activité. Et je parlerai d'abord d'initiative. Qu'est-ce qui se passe avec Motivation Day? Nous organisons déjà nos conférences chez CEPAS, quelque chose de bien, et CEPAS nous reçoit. Du reste, j'en profite pour dire merci au Père Emmanuel qui travaille avec nous. Alors là, on se dit, mais tiens, chacun mène ses activités. Qui vient louer chez CEPAS, pour certains, ils ont la salle gratuitement, chacun organise ses activités. Et le CEPAS, effectivement, nous accompagne de la sorte. On s'est dit, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on puisse s'unir et que chacun porte ses compétences, dont les personnes, si vous permettez, je citerai les noms, parce que ce sont des collaborateurs directs avec qui nous travaillons. Donc, Eugène Kandoulou, Deo Voidi, Arlène Agnero et Christine Chica et moi-même, nous avons réfléchi ensemble. Et lorsque nous avons réfléchi, nous avions déjà l'endroit approprié, le CEPAS. Et lorsque nous présentons la vision donc, au CEPAS, les CEPAS qui avaient déjà aussi une vision pareille. Donc, nous faisons notre fusion.
Une convergence, voilà. Une fusion d'idées.
Exactement, fusion d'idées. Et aujourd'hui, ça a accouché Motivation Day, qui est une très belle activité qui nous-mêmes nous motive. Et voilà, et nous motivons aussi les jeunes.
Et en quoi ça consiste justement?
Alors, Motivation Day, nous avons trois mots-clés. Motiver, inspirer, modeler. Je l'ai dit au départ, même avec RDC Luna Lobby, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était le plus grand chantier de la RDC, c'est l'homme. Et Motivation Day l'a compris. Alors, c'est des jeunes entrepreneurs qui se disent, tiens, il est important de construire le pays, il est important qu'on puisse faire ceci ou cela, mais il est aussi important que nous puissions être à mesure de bâtir des hommes. Et pour ça, il faut les parler, il faut les motiver, il faut rêver des rêves, il faut rêver des héros qui sont là quelque part, qui disent, mais tiens, est-ce que ça va aller? Alors nous ne parlons pas seulement de nos succès, Nous parlons de nos échecs pour que ça puisse servir à notre jeunesse. Nous leur disons ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour nous-mêmes. Et comment est-ce qu'eux peuvent s'en servir pour avoir meilleur que nous ce que nous avons aujourd'hui.
C'est la troisième activité que vous allez organiser ce week-end, donc ce week-end. Demain.
1er juillet, nous serons donc à Hôtel Vénus, salle au Capi, où nous attendons 500 jeunes gens. Vous avez par exemple, à la première édition, on avait parlé de la notion de la vision. Et là, vous avez des notions de leadership. Ici, Motivation Day prépare des leaders. Nous pensons que d'autres utilisent d'autres formes pour préparer ces jeunes gens. Nous les applaudissons. Mais nous avons choisi Motivation Day pour préparer ces jeunes leaders.
Et c'est quoi un leader selon vous?
Un leader pour moi, c'est quelqu'un qui inspire et qui influence positivement.
Quelle attitude il doit avoir un leader?
Les dons de soi pour les autres, de voir un changement autour de lui. Mon père m'a dit un jour, je considérerai que tu as réussi lorsque je verrai les gens autour de toi réussir. Un bon leader pour moi, s'il doit dire qu'il a réussi, c'est lorsqu'il regarde autour de lui et voit qu'il a travaillé avec ces jeunes gens, il a travaillé avec des personnes et ces personnes ont réussi.
57 ans après l'indépendance, quel regard les parents portent-ils sur les jeunes? Écoutons leur point de vue au micro d'Hervé Vauca qui les a rencontrés.
La jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse, c'est l'espoir d'un pays, de tout un peuple. Mais est-ce que les jeunes continuent à rêver? Non, ils ne rêvent plus. Les jeunes ont abandonné son idéal. L'idéal de la jeunesse, c'est les jeunes doivent lutter pour la vie, c'est l'enthousiasme, l'engagement. Mais les jeunes sont devenus distraits. Hein? Les jeunes sont devenus irresponsables. Hein? Pour moi, je crois que nous ne pouvons plus compter à la jeunesse. Mais il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a le facteur social, il y a le facteur économique, le facteur financier. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Donc, bref, je vous dirais que actuellement, nous les parents, nous ne pouvons plus compter sur la jeunesse. Parce qu'il y a des jeunes qui sont à l'université, mais nous sommes derrière pour faire le suivi. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas capables de s'assumer. Donc, les jeunes ne sont plus responsables. Il faut trouver une solution, hein. Il faut faire des séminaires, faire des séances de travail pour remédier à cette situation. Donc pour moi, je crois que le problème est sérieux.
Moi, je considère la jeunesse comme une pépinière. Or, la pépinière doit toujours être arrosée. Une pépinière qui n'est pas arrosée perd ses jeunes plantes. C'est justement comme la jeunesse d'aujourd'hui. Donc la jeunesse est délaissée à leur propre sort. C'est comme ça que les jeunes se désintéressent. Même sur l'avenir, parce que quand ils voient leurs amis qui ont déjà fini par exemple les études, qui sont au chômage, et les restes commencent à se décourager. Moi je pense que c'est à ce niveau-là que je peux placer un mot. Si nous pouvons considérer la jeunesse comme une pépinière, et qu'on l'arrose régulièrement, je pense que tout ira mieux.
Arroser comment?
Arroser, c'est-à-dire s'occuper de la jeunesse, comme dans d'autres cieux, hein, leurs études, les soins médicaux, et tout. Donc, quand la vie devient difficile et les jeunes ne savent plus à quoi s'en tenir devant cette vie, les études, ceux qui sont à l'université, c'est difficile de payer des études, il y a ceux qui abandonnent. Donc, c'est comme ça que moi je trouve que les jeunes se livrent à n'importe quoi.
La jeunesse congolaise est plongée dans la distraction totale parce que dans un pays, dans une société, nous devons créer le rêve. Le rêve doit être créé comme sous d'autres cieux. Il existe le rêve américain, le rêve français, j'en passe. Mais est-ce que le rêve congolais existe? Je ne crois pas. Les jeunes congolais, l'enfant congolais qui naît aujourd'hui, qui va le même jour à l'école avec l'enfant français ou américain, voyez, ses autres contemporains du même âge que lui, sous d'autres cieux, savent emprunter une ligne déjà tracée pour eux, voyez. Mais est-ce que tel est le cas ici chez nous? Je ne pense pas. Donc, c'est pour dire simplement que le rêve congolais n'existe pas parce que la jeunesse est dans le brouillard, hein, dans le brouillard total. L'avenir est incertain par rapport à tous les aspects qui vivent le pays. Donc ça affecte sérieusement la jeunesse et la jeunesse ne se retrouve pas, vous voyez. Et pour corriger cela, il faut que l'intelligence congolaise puisse créer le rêve. Il faut qu'elle puisse créer le rêve. Comment créer le rêve? En commençant par créer un projet de société. Un projet de société clair, net, qui détermine, qui identifie les besoins, qui détermine la ligne de conduite à suivre.
Pour son jeune. Ils sont jeunes et incarnent l'avenir. Leur quotidien, préoccupation, ambition,
C'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi. Une émission des jeunes, pour les jeunes et avec le jeune. Tous les vendredis à 6h30, 13h30 et 20h30. Le lundi à 9h15.
Je rappelle que vous suivez 100% jeunes consacré aujourd'hui à la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. De quel Congo rêvent les jeunes 57 ans après est notre thème de ce jour. Revenons aux organisatrices du camp de leadership. Elles nous disent à présent quels rêves elles ont pour la RDC et comment y parvenir. Merveille, Françoise et Tracy Ntumba s'entretiennent avec Berry Franklin Luchaka.
Tous les ans, au mois de juin, on pose toujours la question de savoir 57 ans après, c'est quoi le Congo dans ton rêve, 56 ans après. Je pense, à mon humble avis, je pense que c'est plutôt une question qu'on devait arrêter de se poser. Hein. Peut-être que je serais un peu trop dur, parce que je pense qu'il est maintenant temps d'arrêter de rêver et de passer à l'action. À 50 ans, un homme qui a 50 ans, c'est pratiquement quelqu'un de mature. C'est un homme responsable qui a eu des enfants et qui, sous d'autres cieux, va déjà à la retraite. Mais sinon, s'il faudrait que je réponde d'abord à ta question, je pense que l'hymne national de notre pays est très éloquent. Ce grand Congo, ce beau pays dont on a commencé à rêver depuis des années. Et il est important aujourd'hui pour nous de se rendre compte qu'effectivement, rien ne sera fait. Le Congo dont on rêve ne sera pas réel si l'on se décide de ne rien faire. Et je pense que c'est même dans ce cadre-là, je vais associer ça à cette activité qu'on organise. Lorsque Françoise l'a dit tout à l'heure, et Merveille aussi, assis bien renchéri, nous renforçons les capacités de ces jeunes filles afin de leur permettre d'être véritablement des acteurs des changements. C'est-à-dire, une fois que tu es acteur des changements, c'est ta contribution qui fera en sorte que le Congo dont on a rêvé puisse devenir effectivement ce Congo-là dont les autres pays du monde pourront également rêver. Donc je pense que cette question, l'hymne national est très éloquente. Il faudrait maintenant qu'on arrête de rêver, qu'on passe à l'action, que tout le monde s'identifie à nos problèmes, puisque nous avons des problèmes réels, nous avons des défis à relever et qu'on agisse.
Je peux ajouter, quand Tracy parle de l'hymne national, que les enfants ou nous, les jeunes, nous ne rêvons que de ce Congo-là qu'on chante dans l'hymne national. Un don béni des aïeux. On doit vraiment voir que c'est un don béni des aïeux. Aujourd'hui, avec la souffrance qu'il y a, avec le fait que tout ne marche pas, tout va à l'envers, les antivaleurs sont devenues les valeurs. Ce n'est pas ce don béni-là de Dieu qu'on est en train de remarquer. Donc si je peux dire de quel Congo les jeunes sont en train de rêver, ce n'est que le Congo-là dont on parle dans l'hymne national. Un Congo prospère, un Congo qui est un don béni de la République, un don béni de Dieu. Ce n'est que ça.
Toujours par rapport à l'indépendance, il y a une phrase que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Donc c'est là, c'est de notre responsabilité à nous, comme l'a dit Tracy. C'est pour cela qu'on aide ces filles d'avoir assez de compétences pour qu'elles, à leur tour, puissent aider que nous tous ensemble, nous puissions bâtir ce Congo-là. Donc en fait, c'était juste pour compléter par rapport à l'hymne national.
Bâtir un Congo plus beau qu'avant. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce Congo plus beau qu'avant?
Bon, je sais pas. Tout à l'heure, tu as posé une question. Tu demandais, au fait, ce rêve-là, pour y arriver, passer par quoi? Mm-hmm. Je me permets d'abord de revenir à cette question. Je pense qu'il est important pour nous de prendre conscience que nous ne pouvons pas continuer à rêver de ce Congo ou à penser que le Congo va changer sans pour autant se décider de poser les bonnes actions. C'est, généralement, on a l'impression, on le fait souvent, on se dit oui, le Congo il va pas bien, on a ça tout à l'heure, Françoise a parlé
on
des
décrit plein de choses.
On décrit plein de choses. Mais qui est cet individu qui arrive à se dire ok, le Congo il fonctionne pas, qu'est-ce que moi je dois faire? Généralement, on a tendance à se sortir du lot. On ne s'identifie pas au problème. On a l'impression que c'est les autres qui sont censés trouver les solutions à nos problèmes. Alors que rien ne se fera si personne se décide de bouger son doigt. Donc il est important pour cette jeunesse-là de se dire aujourd'hui que pour effectivement arriver à avoir le Congo de nos rêves, ce Congo qu'on a tant chanté, de s'identifier au problème et déposer les bonnes actions. Chacun dans son domaine. On a plusieurs domaines ici, les compétences des individus sont très diversifiées. Il faudrait que chacun de nous dans son domaine, à nous, arrive à poser la pierre. Nous, on l'a fait dans le cadre de ce camp de leadership. On arrive à renforcer les capacités de ces jeunes qui sont encore des jeunes adolescentes, mais en qui nous posons déjà des jalons, des responsabilités, des jalons d'engagement et tous ces gens qui feront en sorte que le lendemain de cette République sera meilleur parce que le pays sera géré par des personnes qui ont compris, qui ont intériorisé le sens de la responsabilité, le sens de l'engagement citoyen et le sens de la participation citoyenne.
Merveille. Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, se posent les bonnes questions pour développer ce pays?
Personnellement, avec le jeune que j'ai eu à rencontrer, je dirais oui, parce que je connais pas mal de jeunes qui sont actifs. Mais il y a aussi un nombre qui sont encore dans la distraction et tout et tout. Donc, si je pourrais encore revenir sur le camp par rapport à la question que vous m'aviez posée, on est en train d'outiller ces jeunes filles, leur dire comment détecter les problèmes, comment y réfléchir, trouver les causes ainsi que les conséquences, mais également aussi trouver des solutions. Donc c'est en fait ces processus que l'on doit intérioriser. Comme Tracy l'a dit, c'est nous qui devons faire quelque chose. Et comment le faire? On doit penser. Bien sûr, on décrit beaucoup de choses, mais par exemple, moi, dans mon domaine, je sais qu'il y a telle chose qui ne marche pas. Qu'est-ce que je fais à mon niveau, à moi? Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez un peu. Donc, par rapport à ces filles, je pense que quand elles sauront comment ces processus vont marcher, plus tard, elles poseront de bonnes questions, elles poseront également de bonnes actions. Et par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, que je disais, il y a une partie de jeunes que je connais qui sont aussi très engagés, je pense que tout le monde est décidé de pouvoir emmener les changements. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans beaucoup d'activités. Moi, je suis dans le monde associatif. Je connais beaucoup de leaders qui, au sein même de leur communauté, ils organisent des clubs de jeunes. Au sein même de leur communauté, ils sensibilisent les parents, les enfants et tout sur diverses thématiques. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent se décrier, il n'y a pas d'emploi, mais tout. Mais il y a beaucoup de thématiques dans lesquelles que nous avions appris par exemple à l'école ou bien juste par notre propre expérience, que nous pouvons mettre, disponibiliser auprès des autres. Donc moi je dis oui, il y a de jeunes qui sont conscients et qui essayent de faire que les choses avancent. On est la preuve, nous sommes là.
Françoise, est-ce qu'il faudrait que les jeunes s'engagent aussi dans la politique?
Bon, s'engager dans la politique, moi je trouve que oui. Parce que les jeunes, s'ils veulent changer leur monde, ils doivent s'intéresser à tous les secteurs de ce pays et la politique en est un secteur de base. Vous savez, moi j'ai toujours dit, et j'ai même dit à nos jeunes filles ici, adolescentes, à qui on renforce les capacités de leadership, que ça ne sert à rien de crier au feu et rester statique sans pour autant prendre une décision ou chercher une solution pour éteindre ce feu-là. Quand tu cries au feu, c'est bien de crier, mais tu ne cries pas pendant 10 minutes, tu cries pendant une minute. Les 9 autres minutes qui suivent, tu vas chercher un seau, chercher de l'eau et commencer à éteindre ce feu ou du sable, ça dépend de l'intensité de ce feu-là. Donc si les jeunes doivent s'investir, doivent s'occuper des problèmes de ce pays, ils doivent même aller jusqu'à entrer dans la politique, à s'intéresser à la politique et voire même à prendre des décisions par rapport à la politique, à occuper des places nécessaires, des postes nécessaires, des niveaux nécessaires dans ce pays et gérer cette politique.
Merveille.
Il faut que le jeune puisse être actif dans tous les domaines. La politique, c'est un domaine très, très important, surtout dans la vie en communauté. Parce que la politique, on s'est dit que souvent, il y a des personnes qui décrivent qu'il n'y a pas la participation de la jeunesse et tout. Mais où sont ces jeunes? Où trouver ces jeunes? Ils doivent s'intéresser dans ces questions pour être activement dans la politique et aussi prendre part aux décisions. Parce que, par exemple, ici en RDC, la majeure partie de la population sont des jeunes. Donc, quand les politiciens, si je peux me permettre de le dire, prennent des décisions, cela a aussi des répercussions sur la jeunesse. Donc, c'est vraiment, moi je dirais, vraiment primordial que les jeunes, eux aussi, puissent participer là où on prend de grandes décisions par rapport à la vie en communauté, pour qu'eux puissent faire entendre leur voix, donner leurs avis, afin qu'eux aussi puissent bien s'épanouir, comme nous, on est toujours là, en train d'œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse. Je pense que, effectivement, participer dans les prises de décision, elle aussi fait partie de l'épanouissement.
Merci. Tracy?
Alors, pour répondre à cette question, d'abord, j'aimerais rappeler qu'il a toujours été dit que celui qui ne veut pas participer n'a pas le droit de réclamer. La participation est une nécessité. En anglais, on dit « it's a must ». C'est ce qu'on doit faire. Aussi, je pense qu'il ne faudrait pas dissocier la politique de tous les domaines de la société. Je pense que la politique, comme l'a dit Françoise, c'est même ce substrat sociologique sur lequel toute une société se fonde. Moi, je dis « tout est politique ». Mais les domaines sont diversifiés et la politique, elle se manifeste ou elle s'applique de différentes manières. Donc on ne peut pas se désintéresser à la politique parce que pour que tout fonctionne au niveau de la société, on l'économie, dans les finances, dans tous les domaines, toutes les politiques, parce que tous ces domaines sont régis
par
les lois.
Même dans le développement.
Même dans le développement, tous ces domaines sont régis par les lois. C'est-à-dire que chacun de nous doit pouvoir identifier sa compétence. En quoi est-ce que moi, je suis plus compétente? Si je suis compétente en développement durable, si je suis compétente dans le domaine des changements climatiques, si je suis compétente dans le domaine de l'environnement, chacun de nous doit identifier sa compétence et poser la pierre dans son domaine.
Mikolo to sekala kina mosolo yamboka Congo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soso sali boya kobongi sa Congo aveni ebongi to sala ebongi to sala motonyo so ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi.
Merveille, Françoise et Tressine Toumba, toutes trois organisatrices du camp de leadership, elles nous parlaient de leurs aspirations en tant que jeunes pour la République démocratique du Congo de demain et comment le réaliser. Pour être plus concret, Gomba Rigaud, de son côté, n'a pas manqué de partager avec nous quelques stratégies à mettre en place pour préparer un avenir meilleur pour la RDC qui passe par la conscientisation, selon lui, des jeunes pour réveiller le leadership qui sommeille en eux.
Nous, nous avons mis l'accent sur la citoyenneté responsable.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les jeunes gens doivent être à mesure de poser des actions citoyennes responsables. On n'a pas besoin d'attendre que le bourgmestre puisse venir nettoyer notre caniveau. Si nous avons le moyen de le faire, on peut le faire nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'attendre que le chef du quartier, je ne sais, qui puisse venir nous dire de ramasser le sachet et de vider nos poubelles. On peut l'organiser. Ça veut dire, nous, nous avons dit, si ces jeunes gens sont à mesure d'avoir cette conscientisation, ils pourront poser des actions. Alors, comme je disais, l'accent a été mis sur la citoyenneté responsable. Amener les jeunes gens, eux-mêmes, à aller sur le terrain, de s'appliquer et de pouvoir aussi être à mesure d'influencer d'autres jeunes. J'étais très content lorsqu'un groupe de jeunes qui ont pris part à nos formations, qui vont m'inviter un jour, ils avaient eux-mêmes pris l'initiative de nettoyer les avenues de leur quartier. J'étais tellement content de voir que c'est parti d'une conférence seulement, mais aujourd'hui il y a des actions sur terrain. Et ces jeunes gens, on les avait applaudis. Il y en a encore d'autres qui nous invitent à des activités. Ils vous disent, tiens, il y a autrefois, nous avons pris part à vos conférences. Aujourd'hui, voilà ce que nous faisons chez nous et voilà ce que nous faisons pour nos jeunes. Entre 120 et 200 jeunes. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas le même visage souvent. Vous les avez après, vous les avez sur le terrain, vous les avez dans les actions, c'est bien. Mais ce serait pas aussi bien que vous ayez que le même personne tout le temps, alors que nous avons combien de millions ici à Kinshasa. Donc si aujourd'hui, nous sommes à la maison d'influencer 100 jeunes à une réunion, et que demain nous influençons 100 autres jeunes à Tchango, et qu'après nous influençons 100 autres jeunes dans la commune de Ngaliema, ça serait formidable. Certains jeunes, quand ils viennent à nos rencontres, nous leur faisons savoir que c'est nous-mêmes qui nous soutenons. Nous n'avons pas de sponsors, nous n'avons pas de parrains.
Donc l'argent sort de votre poche.
Exactement.
Il y a combien de membres autour de vous?
Pour RDC Lona Lobby, nous avons pratiquement 11 membres qui travaillent.
Bénévolement
et qui contribuent. D'eux-mêmes. Ça veut dire, eux-mêmes, ils disent, tiens, on mène telle activité, moi je donne tel montant. Et puis nous organisons. Voyez, et ça prouve déjà combien les jeunes ont la volonté de voir un changement radical.
Tout à fait. Et moi, je suis même curieux de savoir comment est-ce que vous avez pu réunir ces 11 personnes autour de vous. Quelle est la démarche? Racontez-nous un peu cette petite histoire.
Belle histoire.
Oui.
Belle histoire parce que lorsque je reviens au pays, je rencontre deux jeunes gens avec qui j'explique un peu ce que je pense de la RDC. Ils vont aller en parler à leurs amis et deux autres jeunes qui vont me contacter par Facebook parce qu'ils ont vu des publications qui les intéressaient. Je les invite, on se retrouve à Bandalungwa et on va s'asseoir quelque part, on va commencer à réfléchir. Et puis après, on commence à se rencontrer les dimanches après-midi. Petit à petit, on commence à expliquer ce que nous pensons de la RDC, ce que nous voulons faire de la RDC. La première des notions que nous avons travaillé pendant pratiquement un mois, c'était la notion de l'intégrité. Je venais d'un pays, le Burkina Faso, qui a une belle réputation par rapport à l'intégrité. Alors, c'est des valeurs que j'avais
intégrées là-bas. Ouais.
Donc, je les ai amenées ici et j'ai commencé à échanger avec des jeunes gens sur l'intégrité. Et certains comprenaient que l'intégrité n'était pas seulement une histoire de protéger notre territoire pour certains, mais ils comprenaient la notion de l'intégrité d'être un homme intègre. Et nous sommes allés par là en disant que pour un pays si riche pour nous, pour que la prospérité puisse être commune, il faut qu'il y ait des hommes intègres. Alors, quand les jeunes gens commencent à le comprendre, ils comprennent que non, il y a ici, on peut rêver. On peut faire quelque chose. Et chacun s'est senti responsable. Et c'est comme ça que nous avons constitué la coordination, nous avons constitué une équipe, et l'équipe elle a été répartie, et chacun a ses responsabilités, et nous y travaillons.
Congo, Congo ndemboka, mboka ngomo kengeli koi, mboka ngomo kengeli leopard.